Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi, Élisée Nkpatine depuis Boïkan au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc d'ici là, on va retrouver Valdo Yamba Yamba depuis Kinshasa. Nous prenons la direction de Columbus pour retrouver Amdine Si, ici donc aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors, vous l'avez suivi le week-end écoulé, l'Africa Sport d'Abidjan a remporté samedi dernier le derby face à l'ASEC Mimosa, son plus grand rival, hein, sur le score de 1-0 à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1 du championnat national, donc de première division en Côte d'Ivoire. Le match s'est joué au stade Félix Oufouette-Boigny. On parlera de ce choc-là, ce classico ivoirien, mais au-delà, on évoquera, hein, les derbies en général sur le continent, leur déclin en Afrique subsaharienne, contrairement à l'Afrique du Nord. Alors, parlons d'abord, hein, de ce match ASEC-Africa. L'ASEC a perdu 1-0, disons, je le disais. Devant l'Africa Sport, il conserve sa deuxième place avec 18 points. Pour l'Africa Sport, c'est un petit pas, hein, un petit exploit surtout, puisque la dernière fois, hein, que l'Africa, disons, a gagné l'ASEC, c'était le 11 novembre 2014. Alors, défaite donc de l'ASEC 2-1 devant l'Africa. Alors, Élisée, il y a eu assez de bruit autour de cette rencontre du championnat national de première division en Côte d'Ivoire.
Bien évidemment, puisque avant cette rencontre, il y a eu tellement d'échos, surtout sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, le championnat ivoirien est devenu professionnel il y a quelques années et est même diffusé sur la chaîne cryptée Canal Plus. Mais la grande déception, c'est bien sûr au niveau des supporters qui ne remplissent pas forcément les stades. Mais la grande surprise, c'était même ce choc qui a eu lieu le week-end où il y a eu 15 000 spectateurs, Yacouba, il faut le dire, 15 000 spectateurs qui ont effectué le déplacement. Ça fait plus de 10 ans qu'on a vu tant de monde autour d'un classement. Vous l'avez dit, l'Africa Sport a remporté son dernier classico en 2014. Il faut dire que ce sont deux clubs qui ont marqué le football ivoirien déjà au début des années 80 où il y avait Simplice Zissou du côté de l'Africa Sport et bien sûr Maître Roger Oyen qui a pris l'ASEC d'Abidjan et finalement l'a amené avec une grande institution, avec le centre de formation dirigé par le français que nous connaissons tous. Donc c'est dire que quelque part les deux clubs ont leur particularité. L'Africa Sport qui a recruté un entraîneur blanc cette année a pour ambition d'être africain la saison dernière. Dans le jeu, on a assisté à une très belle rencontre, hein, même si la SEC a dominé techniquement. On a vu beaucoup d'engagement du côté d'Africa Sport, le public était présent, on a vu beaucoup de monde qui ont accompagné cette explication. Au finish, les Aiglons l'ont emporté sur un but marqué sur pénalty. Il faut dire que c'était une grande consécration puisque la Ligue a quand même en fait déplacé les supporters à travers les réseaux sociaux. Ils ont répondu présent et je l'ai dit, ce qui n'est plus arrivé il y a fort longtemps, c'est une réussite totalement, il faut le dire, puisque après le match, on a vu tant de satisfaction. Même il y a eu des anciens joueurs qui ont évolué dans les deux clubs qui étaient présents et ils ont même quitté l'Europe pour venir assister à cette explication. C'est-à-dire que pour les années à venir, on aura de très belles affiches entre l'Africa Sport et l'ASEC d'Abidjan.
On l'espère bien, Élisée, mais le petit bémol, hein, c'est que ce match ASEC Africa drainait pas mal de monde dans le temps. Ces dernières années, on parle de 2000 à 3000 supporters au stade lorsque l'ASEC joue contre l'Africa ou l'inverse. Alors, cette année, il y a eu jusqu'à 15 000 supporters. C'est assez, mais c'est pas suffisant. On va rappeler que le stade Félix Oufouette-Boigny compte 45 000 places et donc, il y avait quand même 30 000 places vides dans le stade. Et donc, alors, Jules, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui peut expliquer, hein, l'absence d'influence dans les stades sur le continent lors des derbys locaux, surtout en Afrique subsaharienne?
Oui, deux choses principalement, c'est que les grandes équipes africaines des années 70, 80 avaient une assise régionale et voire ethnique, puisque les quartiers dans les grandes villes africaines étaient des quartiers constitués de migrants venus des campagnes qui retrouvent leurs cousins un peu dans le même espace. Alors c'était donc en fait, il avait un challenge, c'était des vrais derbys. Alors ça attirait beaucoup de monde. Et par la suite, il y a eu aussi l'autre cause, c'est que les modèles des joueurs se trouvaient en Afrique. Les plus grands joueurs étaient en Afrique, les Théophile Abega, Manga Ongene, etc. On venait les voir jouer et venir découvrir des gris-gris de temps en temps. Le niveau était vraiment relevé. Maintenant, les modèles se retrouvent en Europe, les meilleurs joueurs s'en vont. Et automatiquement, il y a un coup pour ces championnats.
Alors, Valdo, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs.
En 5 ans, République démocratique du Congo, il y avait aussi un gros choc entre le tout-puissant Mazembe et le DC Motoma Pembe. Parle-nous de ce match et de l'affluence qu'il y a eu autour de ce derby.
Bon, l'affluence, ce n'est pas à comparer quand Mazembe joue en compétition africaine interclub. Hein. On a vu, il y a eu des vides dans ce stade de Kamalondo, mais c'était un match qui a quand même drainé un monde parce que Mazembe a son stade, Mazembe sait gérer ses supporters, Mazembe sait dire aux visiteurs que vous allez vous mettre dans tel coin, il sait également gérer l'affluence de son stade, et Mazembe c'est une équipe qui attire confiance auprès de ses supporters, qui attire confiance auprès de ses supporters, qui viennent regarder les spectacles, qui viennent suivre un tel ou tel autre joueur, donc c'est plutôt un match quasi réussi en termes d'affluence. Il faut le dire comme ça, mais cette affluence n'a rien à comparer quand cette équipe, la même équipe de tout-puissant Guerre Mazembe, s'est produit par exemple face aux Zamalek, où vous sentez que le stade est à même de refouler du monde. Ce n'est pas pour rien, Mazembe opte pour un nouveau stade de 50 000 places, parce qu'il y a du besoin, il y a vraiment un énorme besoin, où vous sentez lorsqu'il y a un jeu majeur, les stades, il y a, tout autour de ces stades, il y a plein de gens qui viennent se risquer pour tenter d'entrer, mais le système est tellement bien organisé que si vous n'avez pas de billets, vous n'aurez pas accès. Donc les stades refoulent du monde. Voilà pourquoi les dirigeants du TP ont réfléchi à avoir un autre site pour pouvoir avoir un peu plus du monde. Bon, quant au match, c'était un match aussi qui a été annoncé un peu plus tôt parce que qui a commencé bien avant le match, hein, 48 heures avant. Le président Vivier Chimanga dit que Motoma Pembe a lancé le terme écraser Mazembe dans une de ses interventions face à ses supporters. Et c'est le mot qui a joué avant, pendant et après les matchs. Mazembe qui a pris le dessus grâce notamment au coaching de son entraîneur qui a opéré deux changements. Les deux changements ont apporté deux buts. Kalaba et Kabangu Moulota sont montés en seconde mi-temps pour marquer les deux buts qui ont suffi au tout-puissant Guerre Mazembe de l'emporter sur les derniers clubs Motoma Pembe. C'était un match entre les deux clubs, l'un est en Ligue des Champions, l'autre en Coupe de la Confédération. Un match qui avait également un duel entre deux buteurs au niveau du championnat national, Vini Bongonga et bien sûr
et donc Valdo, qu'on a perdu et qu'on va retrouver. Alors, Amdine, il y avait un certain match qui s'appelle Jaraf-Pikin dans un stade vide, nous dis-tu aussi. Hein. C'était la deuxième journée du championnat national de première division au Sénégal. Dites-nous un peu plus.
Tout à fait, Yacouba, vous avez raison. Au Sénégal, non seulement on a tardé à démarrer le championnat qui... Et année à sa deuxième journée seulement parce qu'il y a eu une pause de plus de 6 mois pour un championnat professionnel. Cela pose énormément de problèmes. Mais pour ce match, c'était vraiment ludicule dans un stade. Le football fédéral Sénégal qui fait plus de 60 000 places, il n'y a même pas eu 500 personnes. Il paraît que seuls 232 tickets d'entrée ont été vendus. Donc, il n'y avait que les journalistes. Quelques dirigeants et quelques supporters seulement, c'est la honte pour le football sénégalais, c'est la honte pour le pays qui est classé vice-champion d'Afrique, et le pays qui a certains Sadio Mané qui rêve de devenir ballon d'or. Mais comme vous l'avez posé cette question, pourquoi ce désamour entre les supporters et le football local au niveau de l'Afrique subsaharienne? Bon, pour le cas du Sénégal, il faut dire qu'on a tenté de résoudre ce problème depuis 10 ans, je dirais même 20 ans, mais le problème persiste et demeure, puisque dans les années 90, comme le disait tantôt Jules, au Sénégal, le stade affiché plein, hein, au stade de Podio qui fait 25 à 30 000 places, il affiché plein quand il y avait des délits comme la gendarmerie contre le Djerab, le tribunal d'Akawa, la gendarmerie contre Lies Goré, Francis Goré, pour avoir une place au niveau du stade de Podio. Il fallait passer la journée là-bas, le stade était plein à craquer, mais depuis, c'est la mort quand même des clubs traditionnels. On a essayé de résoudre ce problème avec l'avènement des clubs dits d'entreprise, mais ça n'a pas marché. Il y a eu également les clubs de quartier qui ont démarré par le mouvement Neuetat, c'est-à-dire les championnats populaires, l'équivalent de la 5e division pour graver les échelons jusqu'à après 8 ans. Ça n'a pas marché. Depuis quelques années, il y a l'avènement des clubs, des académies, des centres de formation comme Diamba Génération Foot. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas jusqu'à présent. Mais il faut dire que ces championnats aussi sont concurrencés par les matchs qu'on suit sur Canal, sur Bein Sport, parce que les gens préfèrent rester chez eux, voir le thé, regarder Liverpool de Sadio Mané, City de Guardiola, etc. Le Paris Saint-Germain de Neymar, au lieu de se déplacer pour voir quand même des matchs où il n'y a pas de spectacle. Tous ces matchs se terminent par des scores de 0 but partout ou bien 2 buts à 0. Ce n'est pas encourageant pour les amateurs du football au Sénégal. En tout cas, le problème reste entier, Yacouba.
Merci, Amdine. Si, alors, Amine, je me tourne vers vous et peut-être qu'on va vivre une autre réalité. C'est vrai que tous les stades ne sont pas forcément pleins lors de tous les matchs des différents championnats en Afrique du Nord, mais le constat est que comparaison n'est pas raison, mais parallèlement, en Afrique du Nord, ça se passe mieux dans la mesure où, lors des derbies, les stades sont quand même pleins.
Ils sont même archi-pleins et on peut se retrouver avec quasiment des situations très difficiles. Lors du dernier match entre le Wydad de Casablanca et le Raja de Casablanca, par exemple au Maroc, on a dû refuser du monde. Et des fois même, on s'est retrouvé au-delà de la capacité du stade. C'était un match de Coupe arabe et le stade Mohamed V de Casablanca a une capacité de 45 000 places. On était largement au-dessus de ce chiffre-là. Même chose, même constat lorsqu'il y a des affrontements à Tunis entre l'Espérance de Tunis et le club africain, par exemple, ou en Algérie, entre le Mouloudia et l'USMA. Autant dire qu'aujourd'hui, il y a une rivalité entre ces clubs qui occupent un espace assez important dans la vie footballistique de ces pays, car les supporters ne sont pas uniquement concentrés dans les villes où se trouvent ces deux clubs, que ce soit à Alger, à Casablanca ou à Tunis, mais un peu partout dans le pays. Et puis il y a le phénomène ultra qui s'est développé un peu partout dans ces pays du Maghreb à partir de l'année 2005, où on n'est plus dans une rivalité, mais voire on a dépassé ce cadre-là. C'est des luttes sur les réseaux sociaux, c'est des clashs, c'est beaucoup de choses. Donc autant dire que la vie footballistique de ces pays est animée par ces rivalités, par ces derbies. Souvent, et c'est malheureux de le dire, le spectacle est beaucoup plus dans les tribunes que sur le rectangle vert. On a des tifos, on a des messages offensants les uns vers les autres, et ça donne une couleur particulière à ces confrontations. La semaine prochaine, ce week-end plus particulièrement, il y aura un nouveau Ouagraja dans le cadre du championnat du Maroc, et je suis certain qu'on jouera à nouveau à guichet fermé.
Alors, justement, Jules, Amine détalait tout à l'heure le fait qu'en Afrique du Nord, ils ont du mal plutôt à gérer les supporters qui affluent vers les stades. Quelle peut être la recette pour qu'ailleurs aussi ça marche?
Oui, mais pour qu'ailleurs ça marche, il faut d'abord des moyens pour pouvoir rappeler, disons, ramener des joueurs qui peuvent relever le niveau de championnat pour intéresser les spectateurs allaient voir du bon football, qu'ils voient tout le temps à la télévision, mais d'aller le voir un peu en live. Et pour cela, il faut automatiquement investir. Ça se fait. Et c'est le cas, par exemple, du tout-puissant Mazembe, qui traîne un grand public. Le cas, par exemple, de Nimba, et qui sont des équipes aussi qui représentent, comme je le disais tout à l'heure, une certaine identité, une certaine région, et même des régions un peu, disons, frondeuse par rapport au contexte général ou bien au contexte étatique. Donc ça fait que il faut faire rebondir ce sport en le rendant plus attractif, tout simplement.
Merci, Jules Valentin Ngoué. Je pense qu'il faudra une émission spéciale sur les solutions possibles pour amener les supporters au stade en Afrique centrale et en Afrique subsaharienne. Vous suivez Sporama, suivez au Afrique. L'émission revient tout de suite. Autre classico, le plus gros choc, c'est pour ce mercredi en Espagne. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid pour un match en retard, initialement prévu le 26 octobre, mais reporté au 18 décembre à cause des manifestations pro-séparatistes catalans. Les deux clubs sont à égalité à la tête du classement de la Liga, 35 points chacun, et se différencient donc par le goal différentiel. Alors, Élysée, c'est un choc avec un enjeu majeur, la première place de la Liga.
Bien évidemment, puisque les deux équipes n'ont pas pu gagner ce week-end. C'est vrai que déjà le Barça a été accroché par la Sociedad, la Real Sociedad, j'allais dire deux buts partout. On pensait déjà que le Real allait frapper du côté de Valence, mais c'était sans compter sur cette équipe de Valence hein, qui a bien résisté à la domination de l'équipe madrilène et a marqué. Nous étions bien sûr le gardien de but du Real, on aurait déjà assisté à une défaite du Real. Maintenant, ça fait fort longtemps hein, qu'on peut assister à une telle situation, le Real et le Barça qui sont coude à coude, hein, qui vont s'affronter du côté de Nou Camp mercredi prochain. Ça va être un match très difficile. L'entraîneur du Barça très critiqué, mais qui arrive quand même à réaliser des performances, hein, contrairement à Zinedine Zidane qui a commencé par mettre en place un jeu fluide hein, qui pouvait permettre à l'équipe madrilène de produire du bon jeu aujourd'hui. En tout cas, on a vu durant les dernières années le stade de Nou Camp réussir bien au Madrilène, même si bon, les victoires on peut les compter, contrairement au Barça qui réussit très bien du côté du stade du Real Madrid. Donc mercredi prochain, est-ce que le Barça va pouvoir battre enfin le Real Madrid à domicile? On le saura déjà que, bon, Lionel Messi, qui est très en forme, qui a remporté le prix honorifique du Ballon d'Or, et qui va vouloir, bien sûr, se mettre en évidence. Et du côté du Real Madrid aussi, Zinedine Zidane va, bien sûr, miser sur la collective, le collectif, j'allais dire, excusez-moi, le collectif de son équipe, puisque hier, on a vu une équipe, très belle équipe du Real Madrid qui a fait bien circuler le ballon. Est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir mettre en échec le Barça? Élément de réponse sera mercredi prochain.
Tout à fait, Élisée. Alors, Jules, le Barça et le Real sont dans une sorte de reconstruction avec l'introduction de nouveaux joueurs de part et d'autre. Est-ce qu'on peut parler d'égalité de chance dans ce classico?
Oui, mais disons que depuis une dizaine d'années, disons que Barcelone a nettement l'avantage, mais c'est le plus paradoxal est qu'il gagne plutôt à Madrid et parfois largement. Mais cette année, avec le choc qu'il y a eu à Liverpool, l'entraîneur de Barcelone a été clair. Il faut maintenir l'équipe en état de compétition et ce qui compte pour lui, c'est que ça se termine bien en avril-mai. Donc, il n'y aura pas trop de pression sur l'équipe. L'équipe continuera à jouer, et disons, peut-être avec un peu moins de passion que dans le passé, mais avec un peu plus de cynisme. Donc, je crois qu'on aura un match très tactique.
Alors, Amine, il y a deux artificiers hein, en forme des deux côtés. Karim Benzema pour les Madrilènes et Lionel Messi pour les Blaugrana. 12 buts chacun. C'est un autre match hein, dans le match.
C'est un match dans le match, même s'il n'évolue pas dans le même registre. Lionel Messi est aujourd'hui extraordinairement entouré par ses coéquipiers. Son entente avec Griezmann commence à se faire. Il joue les yeux fermés avec Luis Suarez. Il est capable de se muer en passeur. Il aspire le jeu. Il peut disparaître par moments. On peut l'oublier ou il peut se faire oublier et apparemment ça lui réussit bien même si sa dernière prestation face à la Real Sociedad n'a pas été du tout concluante samedi dernier. Karim Benzema c'est un peu le sauveur du Real Madrid. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est lui qui porte à bout de bras cette équipe et c'est lui qui lui a permis d'ailleurs hier de ramener le point du nul de Valence qui permet au Real d'être au coude à coude avec le Barça. Karim Benzema n'a jamais été aussi constant, il n'a jamais été aussi régulier avec le Real Madrid depuis son arrivée il y a 10 ans. Aujourd'hui beaucoup des espoirs de Zinedine Zidane et de ses troupes passent par une grande prestation de Karim Benzema. Il doit être au top. Alors qu'un Lionel Messi à 50, voire à 60%, est capable de tirer son épingle du jeu et d'être décisif dans un classico. Aujourd'hui, c'est un duel à distance entre ces deux hommes, mais avantage a priori à Lionel Messi.
Alors, Amdine, comme par hasard, hein, le Real et le Barça ont concédé des matchs nuls ce week-end face à la Real Sociedad pour le FC Barcelone 2-2 et 1-1 entre le Real et Valence. Le sort lie ces deux équipes-là.
Oui, je pense que le joueur avait déjà en tête le but. Je pense qu'on a su quand même aussi tous les joueurs du Real quand même qui ont joué après le Barça qui a été tenu en échec. Ils devaient profiter quand même du faux pas du Barça pour pouvoir prendre la tête du classement. Mais je pense qu'ils avaient quand même la tête à ce début parce que le derby Barça contre Real, c'est un match pas comme les autres, c'est un match spécial où se passent des choses très, très, très spéciales. Donc, je pense que les joueurs avaient la tête à ça. Mais moi, je pense hein, que le Barça par un peu avec la fermeté politique, puisque le Barça monte en puissance alors que le Real est en reconstruction. Moi, je suis même étonné des résultats du Real en ce moment. Le Real qui fait égal à